Je suis sociologue, mais je suis professeur de communication. Pourquoi je suis professeur de communication? Parce que j'ai eu la chance de travailler à la télévision publique de la Catalogne. C'est une télévision qu'on a mis en fonctionnement juste après l'avènement de la démocratie. Et je souligne ça parce que ça a été une télévision qui a marché un peu comme le Big Brother. L'idée de base de cette télévision, c'était faire de l'impact sur les gens. Les gens avaient oublié presque la langue parce que le franquisme a provoqué des mouvements de population. Alors, les Catalans étaient compris pour 50% de la population. Et on a fait cette télévision pour, comme objectif, normalisation culturelle. Alors, en 4 ans, on arrivait à une compréhension de 97% de la langue. Je vous raconte pas comment, parce que vous serez un peu choqués. Je dis tout le monde que pendant les temps que les ministres Lang parlaient de l'exception européenne et tout ça, moi, j'allais pour l'Europe en parlant de Dallas comme élément de normalisation culturelle. J'ai dirigé un grand programme de recherche déjà à l'université sur technologie de l'information, de la communication et des sociétés, avec pendant 6 années, 60 chercheurs, 50 000 enquêtes, etc. Et après, aussi, j'étais présidente d'une université 100% en ligne, née en 1994. C'était pas évident l'utilisation d'Internet, mais quand j'étais présidente, on avait 60 000 étudiants. Et c'est aussi un exemple d'une bonne utilisation, je m'excuse, de technologie, parce que grâce à cette université, beaucoup de monde qui pouvait ou pas pu aller à l'université, des grands handicapés par exemple, des aveugles, parce qu'on a introduit les brailles, ou bien des mamans qui ont laissé tomber ses études, qui avaient les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'université, ont fini ses études. Et ça, dans chaque acte de graduation, ils remerciaient. Bon, et finalement, j'ai une chaire sur éducation et technologie au Collège d'études mondiales. Mon objectif ici, c'est de laisser sur la table des questions pour les débats. Alors, j'ai pensé que, étant donné que nous sommes plongés dans un processus de changement que j'ai défini avec deux adjectifs, disruptifs et exponentiels, c'est facile à dire, mais je voudrais démontrer ça. Le futur est arrivé à une vitesse sans précédent et notre cerveau n'est plus à mesure de comprendre. C'est depuis le début du monde jusqu'à 2003, on a créé 100 exabytes d'informations. En 2010 seulement, on était créé 100 exabytes chaque 48 heures. En 2015, on produit 100 exabytes d'infos tous les 2 minutes. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans sciencedaily.com. Et selon cette sciencedaily.com, 90% de données disponibles au monde ont été générées les dernières 2 années. Alors, on est ici. Hein. Qui génère toute cette information? Et ça, c'est l'important pour les séminaires. Les ordinateurs connectés. Et chaque fois plus, les ordinateurs connectés à toutes sortes de choses et d'objets et connectés entre eux et avec nous. Ça serait, après, on va en parler de l'Internet des choses, l'Internet of Things. Selon le dernier rapport de l'Internet Society, le 45% de la population mondiale est connectée au réseau. Ça ne veut rien dire, parce que c'est connecté, 45% des gens connectés. Mais des utilisateurs sont beaucoup plus, parce qu'il y a tous les cybercafés en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, qui ne comptent pas ici. Alors, les utilisateurs sont beaucoup plus que ces 45% des gens qui ont des connexions. Et notre chiffre impressionnant aussi de l'Internet Society, c'est que le 91% de la population du planète a un téléphone portable. C'est presque déjà universel. Que 56% de ces téléphones portables sont des smartphones, sont des téléphones intelligents. Ça veut dire qu'ils permettent la navigation par Internet et tout ça. C'est la téléphonie portable, en fait, est une des adoptions technologiques les plus rapides dans l'histoire. J'ai regardé un peu l'évolution des moyens de communication. Et par exemple, j'ai trouvé que pour arriver à 50 millions d'utilisateurs, 50 millions, la radio a mis 38 années, la télé a mis 13 années, Internet, 4 années. L'iPod, pas l'iPad, hein, l'iPod a mis 3 années. Et Facebook, dans son première année, a arrivé à 200 millions d'utilisateurs. Ça donne aussi une idée de la vitesse, j'allais dire vélocité, non, ça c'est catalan, vitesse de cette histoire. Ça c'est très connu déjà, mais je l'ai dit ici, d'être un pays Facebook, au 2014 aurait été le deuxième. Je suis sûre que maintenant c'est le premier pays au monde, parce que le 2014 avait 1350 millions d'utilisateurs. La Chine, que c'est le premier pays au monde, a 1377 millions d'habitants. Je suis sûre que... Et après vient l'Inde. Je suis sûre qu'en ce moment, Facebook, je ne sais pas si... Tiens, c'est plus que... C'est un peu moins que la Chine. Bon. Qu'est-ce que... En 80% des temps qu'on a dépensé 80% du temps dépensé en les portables, c'est avec les applications, les apps, les applications. Selon Internet World Stats, l'année 2014, 138 milliards d'applications ont été téléchargées. 138 milliards téléchargées d'applications. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a fait. Hein. Bon, ça veut dire qu'il y a un mouvement d'applications très important. Et ce numéro, il semble qu'il va doubler pour le 2017. Les 95% de ces applications qui sont gratuites. Alors, vous me direz, quelle économie, de toute façon, elles vont pas mal. En 2014, elles ont généré 86 milliards de dollars de bénéfices. Et environ 140 milliards sont prévus pour cette année 2015. Bon, c'est la publicité qu'on trouve dedans, toutes ces histoires-là. Hein. Je n'ai pas le temps de m'arrêter ici. Un peu plus de données, Google Chrome, 750 millions d'utilisateurs, mois d'août de 2015. Le part de marché de Google au monde, c'est un 90%, mais en France, c'est un 95,6%. Alors, la France est un des pays où Google applique les monopoles. C'est que Google, 30 000 milliards de pages indexées, 3,3 milliards de requêtes par jour. Un chiffre d'affaires annuel, c'était un chiffre de 2014, celle-ci, de 60 milliards de dollars. Des autres données, chaque semaine, 1,5 milliard de photos sont mises sur les réseaux. YouTube, 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, 4 milliards de vues par jour, 72 heures de vidéos ajoutées chaque minute, Gmail, 900 millions d'utilisateurs, Google Maps, 200 pays cartographiés, et bon, on pourrait parler de Google Analytics, Google Wallet, Google Drive, Google Call, parce qu'ils sont maintenant dans le business des télécommunications, des téléphones, Google Instant, 54 000 employés par tout le monde, et Google et Apple, disait Jean-Daniel avant, que Google et Apple sont les deux plus grands investisseurs mondiaux au domaine de la santé. On pourrait parler encore de Facebook, je n'ai parlé déjà, je ne vous en parle. WhatsApp, 430 millions, suivi de Line et Telegram, Instagram, 300 millions, etc. Je vais focaliser un moment sur Google, qui se présente comme le cerveau global. Il a commencé à acheter, tout le monde s'est demandé à Silicon Valley qu'est-ce qui se passait, pourquoi Google était en train d'acheter une compagnie derrière l'autre d'intelligence artificielle et de robotique. Wired, que c'est la publication de référence dans tout ce thème-là, s'est demandé ça il y a... Ah non, c'était le 2014 que Google a commencé à acheter toutes ces compagnies. Et Wired s'est demandé, tout le monde a dit, vous exagérez. Est-ce que Google tente de rendre nos cerveaux hors de propos? Bon, de toute façon, si on prend l'intelligence artificielle et les big data, on a la tempête parfaite. On voit qu'est-ce qu'il y a derrière de tout ça. L'intelligence artificielle mélangée avec les big data donne à Google un énorme pouvoir de connaître et d'agir. Mais c'est pas sur le monde des données, parce qu'un monde géré par les algorithmes où tout devient quantifiable, c'est un peu comme le monde de nous autres, les mathématiques, non? On se demande si c'est la fin de l'intuition. Et hier, j'étais en train de raconter à Alexandra, à Laurent, que j'avais trouvé un logiciel qui est capable d'analyser, de reconnaître les sentiments dans un email. C'est Cataphora. Et les entreprises l'achètent pour analyser les emails de ses employés et voir quel est l'état d'âme de ses employés. Mais de toute façon, les arts, par exemple, ne sont pas immunes à tout ça. Il y a des logiciels qui sont capables, ils existent déjà, de faire une prédiction sur les possibles succès ou pas d'une chanson, d'un tableau, de choses comme ça. Je n'ai pas le temps, en tout cas après le débat, de vous donner des exemples, mais j'en ai plusieurs. En tout cas, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas les clients de Google. On pense que nous sommes les clients de Google. Nous sommes, je ne sais pas si dire les produits, ça ne se comprend pas, mais nous sommes l'objet avec lequel Google fait business. Hein? Nous sommes devenus ça. Et moi, je suis l'optimiste hein, ici, hein, dans les seins. Mais comme dit Alexandra, Jean-Daniel m'a jean-danielisé. Il m'a... Oui, parce que j'étais beaucoup plus optimiste avant. Ouais. C'est une mauvaise influence. Hein? C'est toi qui l'as dit hier. Hein? Tu deviens jean-danielisé. Bon. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, parce que l'intérêt de Google, c'est ça. C'est nous, mais c'est pas nous comme personne, c'est nous comme générateurs de données, générateurs d'argent. Pour que vous ayez, je vais vous donner, excusez-moi si je vous fatigue avec des données, mais je les donne seulement parce que sinon on n'a pas l'idée. Par exemple, une seule entreprise, Axiom, d'Arkansas, une seule, il y a plusieurs, opère 23 000 serviteurs, canalise plus de 50 000 milliards de données chaque année. Ils ont 700 millions de profils, des consommateurs de tout le monde, chacun avec 1500 traits spécifiques qu'offre à différentes compagnies pour les aider à sa prise de décision. C'est ça qui dit la compagnie, mais pour les aider à sa prise de décision, c'est pour nous vendre des produits. Plus, mais c'est une seule compagnie qui fait ça. Hein? Et avec ça, on arrive à l'Internet des choses, que c'est le point en ce moment. Il y a 2 ans, j'ai connu Tim Berners-Lee, qui est un des créateurs de la World Wide Web. C'est le premier qui m'a parlé de l'Internet des choses. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est ça, parce qu'en ce moment-là, Internet des choses, je ne voyais pas les concepts il y a 10 ans. Il m'a dit l'humanité comme objet. C'est l'humanité comme objet. Il voulait dire c'est l'humanité comme produit. Et c'est ça que je vous disais avant. Hein. En fait, les compagnies technologiques sont en train de connecter Internet à tout. Selon l'Internet Society, on prévoit qu'en 2020, il y aura 30 milliards d'objets connectés. Ça dépend de la source, on dit 30, 60. Mais l'important, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, maintenant, en 2015, il y a déjà, selon Gartner, que c'est une source, 6 milliards d'objets connectés qui donnent de l'information. Appareils jusqu'à présent stupides vont devenir intelligents avec des capteurs et d'autres technologies intégrées dans sa structure. Et grâce à ces objets intelligents, notre vie sera littéralement en ligne, même si nous essayons de l'éviter. Elle est déjà en ligne. Moi, je pas... Bon, je ne vous donne pas des exemples. Après, quelle est la fonction de ces appareils connectés? C'est là de produire data, de produire des données. Avec quelle utilité? Nous connaître mieux. Notre activité digitale est traçable. Et maintenant, ça va être notre activité. Maintenant, c'est déjà notre activité physique est connectée à tout ça et traçable aussi. Parce que toute l'information qu'on laissait à l'espace, à le cyberespace, on les laisse maintenant à l'espace physique. Alors, pourquoi Google achète des entreprises, des compagnies d'intelligence artificielle, des compagnies de robotique, mais aussi des compagnies de thermostats, ou bien des compagnies des éléments de l'automotion? Bon, c'est à vous de réfléchir, hein, parce que les gens se demandent, maintenant Google achète des thermostats? Oui, maintenant Google achète des industries de thermostats. Et il est en train de faire un partnership, un partenariat avec la NASA. Alors, bon, imaginez. Mais tout ça dit, moi je suis l'optimiste, alors il faut que je dise quelque chose d'optimiste, j'ai fini avec ça. Il ne faut pas oublier que la science et la technologie sont une partie fondamentale de notre société. De mon point de vue, la science ne se déroule pas hors de notre société et la technologie ne suit pas. Mais je crois qu'avant, tu as dit que la technologie suit un chemin inévitable. Pour moi, non. Je crois que pour moi, la technologie ne suit pas un chemin unique et inévitable. Je vous laisse ici, après on peut discuter plus, des éléments pour moi positifs hein, de tout ça. Première, fini les monopoles de l'information. En certaine façon, aussi fini les Big Brother. Chaque fois que j'ai dit une chose positive, je me tourne, je m'excuse. Hein. Mais c'est les Big Brother, mais c'est aussi le contraire. Snowden, c'est un exemple. Snowden, peut-être, après on va parler de 1984, il y a Winston 1984, et Snowden c'est notre Winston qui a réussi à s'échapper et à utiliser l'écran pour envoyer un message, pour dénoncer les Big Brother. On est ici aussi. Alors, moi je m'en souviens quand j'ai enseigné structure internationale de la communication, que je disais, j'ai parlé des monopoles des groupes médiatiques, des monopoles des agences de l'information, de nouvelles, comment est-ce qu'on dit ça, des agences de presse. Il y en a Oui, il y a France Presse, heureusement. Mais les autres, c'est l'américaine et l'anglaise plutôt américaine. Alors, c'est pour ça qu'on a l'information qu'ils veulent, non? Ils existent encore, les agents, les monopoles de l'information, les agences de presse, mais ils sont contestés. Ils sont contestés par une force que j'appelle d'autocommunication des masses. Hein. Ce n'est pas la communication des masses, c'est nous que nous sommes capables de nous communiquer avec tout le monde. Les réseaux réinversent la pratique de la communication en occupant les moyens et en créant les messages. C'est un peu ça que je vous disais avec Snowden. Il a occupé les moyens et a créé les messages. Ça, c'est une partie. L'autre, une possible chose positive, le fin du monopole de l'information. Une autre possible chose positive, c'est les technologies comme instrument de connexion à tous les niveaux. Ça veut dire quoi, ça? Au niveau personnel, à travers les réseaux sociaux. Où les amis se partagent comme l'amitié. Il y a tout un monde là, positif. Au niveau professionnel, on a beaucoup de choses. On a LinkedIn qui a déjà 300 millions d'utilisateurs. Au niveau de l'activisme, par exemple, avec les printemps arabes et tout ça, chez moi, par exemple, on a vu ça très clairement. À niveau de l'optimisme, ça, c'est bien. Au niveau de l'aide mutuelle, on dit ça, aide mutuelle, c'est entraide, oui. Avec ce désir de réciprocité, la culture des partages, pour moi, ça, c'est une valeur positive. L'accès à la connaissance, mon université, c'est... mais de toute façon, c'est pas mon université aussi. Nous tous, nous avons un accès à la connaissance qu'il faut mettre en valeur. Et c'est ce que les Nord-Américains, les anglophones appellent empowerment. Je crois que ces technologies sont une façon d'empowerment. Pour moi, l'Internet et l'éthique vont au-delà de l'instrument. Internet crée les conditions d'une nouvelle culture de collaboration, pour moi, hein, des coopérations et des partages qu'avant on ne voyait pas ou ce n'était pas si évident. Internet incarne aussi, il ne faut pas oublier ça, parce qu'on l'oublie très souvent, la culture de la liberté. Il a été délibérément créé, ouverte. Il a été créé, conçu par des scientifiques et des hackers travaillant ensemble dans les années 70 en Californie, à la côte ouest des États-Unis, avec une idée que ce soit très difficile de contrôler. Oui, vous me direz, ça a été créé au Pentagone. Non, ça n'était pas créé au Pentagone. Au Pentagone, Vinserf a travaillé au Pentagone. Il était professeur de l'UCLA. LA, oui. Et il a travaillé au Pentagone pour essayer de sauver l'information des ordinateurs dans un accident nucléaire. Mais après, tout de suite, il a passé à Stanford. Il a passé à travailler avec les hackers pour créer ces réseaux difficiles à contrôler. Et la preuve, c'est qu'il a été. On a essayé de les contrôler. De les contrôler, je veux dire, quelqu'un, un pouvoir qui essaye de contrôler ça. Même en Chine, j'ai travaillé avec avec des hackers chinois. Même en Chine, même cette grande. Comment on dit ça? Écoute, on dit? Ça se comprend? Ça, c'est catalan, non? Muraille, une espèce de muraille. Écoute, je veux dire ce que portent les rires ici. Doré, que c'est des millions de citoyens qui sont en train de regarder si les autres utilisent Internet et quoi, mais ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent pas contrôler. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Internet basé sur des protocoles de code ouvert. Il est devenu user-friendly grâce à la World Wide Web. La World Wide Web, et ici je vais introduire, j'ai fini presque, un concept que c'est le concept de l'hétérotopie que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Tim Berners-Lee aussi, quand je lui ai demandé la World Wide Web c'est quoi. Il m'a dit qu'il s'avait inspiré à l'hétérotopie de Michel Foucault, un concept qui décrit des espaces capables de fonctionner en conditions non hégémoniques. Ce sont des espaces d'altérité qui ne sont pas ni ici ni ailleurs, sont en même temps physiques et mentales. Alors, il a fait ça pour échapper, il faisait ça, il parlait de l'hétérotopie, Michel Foucault, pour échapper de l'autoritarisme et la répression. Et, d'une façon, et ça étalait très bien les concepts à Tim Berners-Lee pour créer la World Wide Web. Pour finir, je pense, avant que toutes les critiques arrivent, qu'il y a une chose qu'on oublie toujours, un élément qu'on oublie toujours, pour lutter contre ça, il y a un instrument important, que c'est l'éducation. On a oublié ça. On est critique, on est très critique, beaucoup de fois avec raison, mais on s'est plaint que les enfants passent beaucoup de temps en face de l'écran, mais on a oublié qu'il faut les éduquer pour ça. Il faut, la première chose, nous, pourquoi on ne les éduque pas, moi j'ai une hypothèse, c'est que nous nions toutes ces histoires-là, parce qu'on comprend, c'est peut-être cette refus de compréhension de tous ces mondes-là, c'est parce qu'on est dans un monde en transition, et ça c'est difficile. Mais l'éducation, c'est important. Entre utopie et dystopie, moi je cherche, comme Michel Foucault, l'hétérotopie, où les choses ne sont bonnes ni mauvaises, simplement sont différentes.